Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite une très bonne fête des pains sans levain, une fête édifiante et enrichissante. Nous venons d'entamer un autre cycle du plan de Dieu. Logiquement, nous nous sommes examinés et nous nous sommes repentis avant la Pâque. Nous avons célébré la Pâque avec des symboles du sang versé et du corps martyrisé du Christ. Et nous avons donc célébré la Pâque en mémoire de cette souffrance et de la mort de Jésus-Christ. Il a souffert d'une façon atroce. Il a versé son sang. Il a payé l'amende de nos péchés pour que nous puissions être pardonnés. Hier soir, nous avons observé la soirée mémorable, notre sortie personnelle de l'Égypte. Nous nous sommes réjouis ensemble, réjouis de notre libération de l'esclavage, du péché, et nous continuons ce thème, donc aujourd'hui, en célébrant les pains sans levain. Christ a payé le prix pour nous. Christ a réalisé les prophéties dans l'Ancien Testament pour que le plan de Dieu puisse se réaliser. Le Christ était le sacrifice parfait. Et nous, de notre côté, notre part, notre responsabilité face à ce sacrifice consiste à enlever le péché de notre vie, de continuer à enlever le péché de notre vie. 1 Corinthiens chapitre 5 et le verset 6. 1 Corinthiens chapitre 5 et le verset 6. Paul qui écrit ici aux Corinthiens qui avait un problème de péché, un problème d'orgueil. Verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Et ils avaient effectivement un problème. Et inévitablement, le levain fait lever toute la pâte. De la même façon, le péché s'infiltre dans notre vie, si nous ne prenons pas garde. Il s'insère dans notre vie et fait partie de notre vie pour abîmer notre vie, pour détruire notre vie, pour la gâcher et pour la démolir. C'est inévitable si nous ne faisons pas attention. Déjà dans Romains chapitre 7, nous sommes familiers avec ce verset. Je ne vais pas m'y rapporter, c'est dans Romains chapitre 7 et le verset 19, où Paul dit « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Lui, ce grand géant spirituel. Le péché du reste, le péché engendre le péché. Il faut que nous ayons le courage de faire face quand nous le voyons. D'affronter des péchés dans nos vies et de vouloir s'en débarrasser. Il n'y a pas de, on parle en français de péché mignon, il n'y a pas de péché mignon. Tout péché est un péché. On va continuer dans le verset 7, si vous voulez bien, en Corinthiens chapitre 5 et le verset 7. Il vient de poser la question, Paul vient de poser la question, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Donc, face à ce problème, il y a la solution qui est donnée dans le verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous pardonner, pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. L'ouvrage biblique Loueur donne la définition de ce mot, disparaître, fait disparaître le vieux levain. Il donne la définition nettoyer, nettoyer complètement, purifier. Nettoyer, nettoyer complètement, purifier. Et c'est ce que nous essayons de faire sur le plan physique quand nous enlevons le levain de la maison. Notre but, c'est de tout enlever. Bien entendu, nous pouvons, et c'est déjà arrivé, nous pouvons ne pas voir du levain qui est présent. Et si en plan physique, logiquement, nous allons être méthodiques, systématiques, diligents et disciplinés, mais c'est aussi possible de laisser passer certaines choses du levain que nous ne voyons pas, même quand nous sommes diligents. C'est possible de négliger ou d'oublier les poissons panés dans le congélateur et même dans l'aspirateur que nous avons utilisé pour nettoyer nos demeures. Je connais quelqu'un, bon, la personne était jeune dans l'église à ce moment-là quand c'est arrivé, et la personne a soigneusement nettoyé son appartement, et pendant les pinceaux de vin, la personne, parce que quelqu'un d'autre dans l'église a fait une réflexion, et la personne s'est rendue compte qu'elle avait pas vidé son aspirateur avec le levain dedans. Dieu veut que nous gérions nos vies. Et Dieu veut que nous gérions nos vies spirituelles. Aujourd'hui, dans ce sermon, j'ai voulu concentrer sur le fait, et c'est le sujet de ce sermon, sur le fait d'être une pâte nouvelle. Comme nous venons de lire, afin que vous soyez une pâte nouvelle. C'est notre but. C'est bien sûr difficile. Nous sommes toujours des êtres humains, quel que soit le nombre d'années que nous sommes dans l'Église de Dieu, dans le corps du Christ. Et nous devons toujours continuer à nous battre. C'est une bataille spirituelle. Et faire attention pour ne pas permettre à de levain spirituel de venir dans nos cœurs et dans nos esprits. C'est si facile de laisser un peu de levain s'insérer dans nos vies sans que nous nous rendions compte. Et que ce levain prenne le pas, peut-être pour un peu de temps, peut-être pour plus longtemps. Mais ça peut envahir, et ça va, si nous ne faisons pas attention, ça va envahir nos vies. C'est comme du levain. Ça va s'installer sans que nous nous en rendons compte. Peut-être doucement. Et quand nous nous rendons compte, peut-être plus tard dans nos vies, le levain aurait pris plus de place. La levure est une substance vivante. Une levure est un champignon unicellulaire et les levures sont des micro-organismes. Et déjà, sur le plan physique, le levain, comme nous venons de lire, le levain fait lever toute la pâte. Le levain envahit toute la pâte et le péché fait de même avec nous. Le levain se répand et le levain va aussi, si nous ne luttons pas contre ce levain dans notre vie, le péché nous asservit et nous réduit à la servitude. Le levain fait de nous un esclave, c'est ce que Romains chapitre 6, je m'y rapporte pas, Romains chapitre 6 dit, il parle d'esclaves du péché. Le péché nous détruit et détruit nos vies. Et donc, la solution est de faire disparaître le vieux levain, comme nous l'avons vu. Du reste, dans le second 21, version second 21, la version Martin, la version Ostevet, il y a le mot « donc ». Le mot « donc » qui se trouve dans le grec. Le verset 6 décrit la réalité de la vie, de notre vie, qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, et par voie des conséquences, nous, en tant que chrétiens, il faut faire, donc, disparaître le vieux levain. Pour que nous soyons une patte nouvelle. Nous parlons souvent de changement dans l'Église, surtout à cette époque de l'année, et une patte nouvelle, c'est quelque chose qui est différent. Nous sommes là pour changer, nous sommes là pour développer dans nos vies les traits de caractère de Dieu. Et une pâte, c'est toute substance qui est mélangée à de l'eau et malaxée. Ça peut être la pâte, ça peut être l'argile. Quand il s'agit du pain, il faut pétrir la pâte si nous voulons avoir un bon résultat. Il faut malaxer. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos où on se donne beaucoup de peine, tout au moins quand c'est manuellement, pour pétrir la pâte. Et peut-être vous l'avez fait vous-même aussi. Et c'est la façon par laquelle Dieu travaille avec nous pour former notre caractère, pour que notre caractère soit conforme à sa volonté. C'est ce que nous voyons dans Ésaïe chapitre 64 et le verset 7. Je m'y rapporte pas. Ésaïe chapitre 64 et le verset 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, donc quelque chose dans les mains de Dieu avec que Dieu façonne. Et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Et donc, si c'était vrai pour Israël à l'époque, à plus forte raison pour nous, Dieu veut faire la même chose avec nous. Dieu veut nous former, veut nous façonner. Et Dieu se servit effectivement de l'argile pour illustrer comme il travaille. C'est le même principe. Il faut que l'argile soit malléable. Il ne faut pas que l'argile durcisse. Le potier et l'argile, c'était une image familière à l'époque de l'autorité absolue de Dieu sur sa création. Nous voyons ceci illustré dans Jérémie chapitre 18, quand Jérémie est descendu de la maison du potier. Verset 6. Jérémie chapitre 18 et le verset 6. Ne puis-je pas agir envers vous, donc c'est Dieu qui parle, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile, donc la pâte, l'argile, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Dieu a voulu travailler avec Israël pour façonner une vase et Dieu veut travailler avec nous aussi. Verset 7. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Verset 8. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, Dieu veut toujours que nous revenions de la méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire, parce que nous voyons ici l'amour incommensurable de Dieu. L'amour d'une étendue, d'une grandeur si considérable qu'elle ne peut pas être mesurée. Et ça nous fait penser aussi à Ézéchiel chapitre 18, j'ai voulu lire à partir du verset 21, Ézéchiel chapitre 18 et le verset 21. Nous voyons ici le même amour incommensurable qui est mentionné, qui est évoqué. Verset 21, je ne vais pas m'y rapporter, je le lis ce passage seulement. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Et nous voulons vivre. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Et ensuite, nous voyons cet amour immense de Dieu. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Et le fait de changer de conduite pour vivre, ça fait partie de notre vie en tant que chrétien. C'est notre désir, c'est notre but, et c'est le but que Dieu nous a donné. Il y a aussi un passage dans le Nouveau Testament qui reprend ce même thème dans Éphésiens chapitre 2 et le verset 10. Éphésiens chapitre 2 et le verset 10. Car nous, chrétiens, nous sommes son ouvrage. C'est Dieu qui nous façonne, c'est Dieu qui travaille avec nous. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le mot pour ouvrage en grec, c'est poïma. Donc, poïma, c'est quelque chose qui est fait, et dans ce contexte, fait par Dieu lui-même, en tant qu'une création créée en Jésus-Christ. Avons-nous pensé à notre nouvelle vie, notre vie de chrétien, en tant qu'une œuvre d'art de la part de Dieu lui-même? Et le concepteur, le maître potier. Nous sommes des morceaux d'argile entre ses mains aimantes. Et Dieu nous a appelés, nous pécheurs, pour devenir une pâte nouvelle. Dieu ne veut pas que nous restions pécheurs. Dieu ne veut pas que nous fassions des compromis. C'est beaucoup trop dangereux sur le plan spirituel. Dieu veut nous voir changer. Changer, nous voir, vaincre nos faiblesses, nos tentations, nos défaillances, nos péchés, nous relever quand nous nous égarons. Parce qu'en tant qu'être humain, nous allons nous égarer par moments. Et c'est pour ça qu'il faut être alerte, très alerte face au péché, face à son influence. Et quand nous ne luttons pas, parce que par moment nous n'avons pas forcément envie de lutter, c'est là que le péché va gagner du terrain. Et si nous ne prenons pas les choses en main, le péché va progressivement nous détruire. Nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, tolérer, laisser passer sciemment le péché. Et pour le chrétien, nous comprenons bien, nous le voyons bien, la vie n'est pas une longue fleuve tranquille. Il faut aller de l'avant, il faut gagner sur nos problèmes, nos difficultés, nos péchés. Il y aura des ratés, mais si nous luttons, et si à la fin de la journée, parce que nous avons lutté contre quelque chose qui est un problème pour nous, si à la fin de la journée, nous pouvons dire « j'ai réussi dans ce domaine », même si la réussite est toute petite, c'est un encouragement et un encouragement pour continuer notre lutte, pour aller plus loin et pour progresser et continuer à éliminer le péché de notre vie. La première loi de succès est le fait d'avoir un but. Et le but, Dieu nous l'a donné. Comme nous avons lu dans 1 Corinthiens, de faire disparaître le vieux levain pour devenir une pâte nouvelle. Mais Dieu nous donne pas uniquement le but, Dieu nous parle aussi de la motivation qu'il faut avoir pour réaliser ce but, qu'il faut détester ce qui est mauvais. Il faut détester le péché. C'est ce que nous voyons dans Psaume chapitre 119 et le verset 104. Il y a plusieurs reprises dans le Psaume 119. Psaume 19 et le verset 104, où nous lisons: par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Il parle de haïr ce qui est mauvais, de haïr la transgression d'un des commandements de Dieu. Verset 128, nous voyons à peu près la même chose. Verset 128, c'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voix de mensonge. Mais c'est écrit comme une voix et on peut glisser sur la pente du mensonge, comme les autres commandements. Verset 163, se répéter une troisième fois. Je hais, je déteste, 163, je hais, je déteste le mensonge, j'aime ta loi. Et dans le psaume 97, je ne vais pas m'y rapporter, le psaume 97 et le verset 10, le synodal dit: ayez en horreur le mal. Le psaume 97, verset 10. Et le second dit ceci: vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. Le péché est un mal. Dieu nous a donné donc notre but, c'est un plan spirituel, et nous voyons bien qu'il y a plusieurs références que nous connaissons bien à ce sujet. Dans Hébreux chapitre, je ne vais pas m'y rapporter, Hébreux chapitre 12, verset 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, comme c'est décrit dans dans le chapitre 11, Hébreux chapitre 11, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Se débarrasser d'eux. Donc, de rejeter complètement et entièrement. Aussi, c'est pareil, je m'y rapporte pas, Hébreux chapitre 6, verset 1, tendons à ce qui est parfait. Tendons à ce qui est parfait. Donc, on laisse le péché derrière nous pour aller vers la perfection. Nous tendons, nous allons vers la perfection. Mais comment est-ce que Dieu voit les choses? Après tout, quand nous voyons le point de vue de Dieu, c'est aussi notre point de départ. Et Dieu nous le dit. Il le dit, par exemple, dans Proverbes chapitre 6, où il y a le mot « haïr » de nouveau. Proverbes chapitre 6, c'est un exemple. Proverbes chapitre 6, verset 16. Il y a six choses que hait l'Éternel, c'est un mot très fort. Nous voyons de nouveau le mot « haïr », et même sept qu'il a en horreur. Donc, nous voyons comment Dieu regarde les choses qui sont mauvaises, comment Dieu regarde le péché, perçoit le péché. Le verset 17, les yeux hautains, l'orgueil, c'est si facile pour les êtres humains de devenir orgueilleux et de rester orgueilleux. Les yeux hautains, la langue menteuse, nous voyons combien de fois la Bible souligne que c'est mauvais de mentir. C'est un péché de mentir. Les mains qui répandent le sang innocent. Les meurtriers. Verset 18. Le cœur qui médite des projets iniques. Et Dieu dit dans Jérémie que le cœur est tortueux par-dessus tout, et les méchants, qui peut le connaître? Je reviens à Proverbes, verset 18, Proverbes 6, verset 18. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les gens qui ne sont pas des faiseurs de paix sont souvent des gens qui sont des faiseurs d'histoire. Et Dieu déteste, Dieu hait ce genre de comportement. Pour être une pâte nouvelle, il faut d'abord se débarrasser du levain, se débarrasser du vieil homme, se débarrasser du pécheur. Et c'est bien marqué dans 1 Corinthiens 5, « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. » Il faut donc d'abord faire disparaître le vieux levain, parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai voulu vous parler d'un exemple de quelqu'un qui était un roi juste, un roi de Juda, qui est devenu une pâte nouvelle. Et pourtant, il avait l'exemple de son grand-père, Manassé. Bon, Manassé a changé plus tard dans son règne, mais il avait aussi l'exemple, le mauvais exemple de son père, qui a régné pendant 2 ans, Amon. Et Josias est devenu quelqu'un d'autre, une pâte nouvelle. Chapitre 34, 2 Chroniques, chapitre 34, 2 Chroniques, chapitre 34, et le verset 1. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et régna 31 ans à Jérusalem. Verset 2. Dès le début, pour ainsi dire, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Il a pris le bon chemin, il a progressé, son cœur était disposé, bien disposé à l'égard de Dieu, à l'égard de ses commandements, et c'était suivi par des actes. Mais il y avait d'abord le cœur. Verset 3. Le 8e année de son règne, donc il avait 15 à 16 ans, le 8e année de son règne, comme il était encore jeune, et c'était tout en son honneur, il commença à rechercher le Dieu de David, son père, et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. Il recherchait Dieu. Il avait une quête, c'était une soif, c'était un désir. Il cherchait Dieu et il a trouvé son Dieu. Il a fait de Dieu son partenaire. Et là aussi, c'était suivi par des actes, par des fruits. La Bible parle de purifier Juda et Jérusalem. Dans le Martin, c'est marqué « nettoyer ». Et nous purifions, nous nettoyons nos demeures avant les pains sans levain. Et nous purifions aussi, parce que Dieu nous le demande, nous purifions nos vies. Et nous retrouvons le mot « purifier », le même mot en hébreu, 2 fois dans le psaume 51. Dans le verset 4, c'est marqué quand David donc s'est repenti devant Dieu, « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Ça, c'est dit dans le verset 4 et un peu plus loin dans le verset 9, « Purifie-moi avec l'hyssope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » David ressentait profondément le besoin d'être purifié, d'être nettoyé, d'être lavé. Et nous aussi, nous pouvons ressentir le besoin que Dieu nous pardonne. Quand nous nous éprouvons nous-mêmes, quand nous voyons des choses que nous n'avons pas vues auparavant. Et Dieu l'a purifié, Dieu a purifié David. Il a fait sa part, il a jeûné, il s'est humilié et il est redevenu malléable dans les mains de Dieu. Il est redevenu comme un petit enfant, comme l'argile. Je reviens à 2 Chroniques, chapitre 34. 2 Chroniques, chapitre 34. Josias a progressé dans sa recherche de la justice de Dieu. Il est allé de l'avant. Nous voyons dans le verset 6, il était très zélé pour enlever le péché. Dans les villes de Manassé et d'Éphraïm, de Siméon et même de Naphtali, partout au milieu de leurs ruines, il renversa les autels, il mit en pièces les idoles et les images taillées et les réduisit en poussière. Il a fait complètement, il a fait entièrement, et il a bâti toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. Il était sur la bonne pente, mais il voulait aller encore plus loin. Verset 8. Le 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Chaphon, fils d'Atsalia, Masséja, chef de la ville, et Joas, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Et il faisait quelque chose à plus long terme. Et nous, c'est pareil, il faut continuer notre lutte, continuer notre chemin. Il y a une continuité dans le processus pour enlever le levain et d'aller plus profondément pour enlever le levain dans nos vies. Verset 9. Ils se rendirent auprès du souverain sacrificateur Hilkiah et leur livra l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu et que les Lévites gardiens du seuil avaient recueilli de Manassé et d'Éphraïm et de tout le reste d'Israël et de tout Juda et Benjamin et des habitants de Jérusalem. Il y avait de l'influence de Josias même auprès de Manassé et d'Éphraïm, qui n'étaient donc pas de Juda. C'est marqué dans la Bible, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et le cœur, tout au moins jusqu'à un certain point, était dans l'œuvre, ce qui constituait l'œuvre de Dieu à ce moment-là. Il ne faut pas que nous nous décourageons. Il y aura des hauts et des bas, mais ce qui compte, c'est que nous progression. Ça va pas se faire un jour. Il y a des choses qui vont se mettre de travers et que par moment, nous allons dire, je n'ai pas réussi. Proverbe chapitre 24 et le verset 16. Proverbe chapitre 24 et le verset 16. C'est une vérité biblique, une vérité dans nos vies. Verset 16, car sept fois le juste tombe et il se relève, c'est ça le point important, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Nous allons tous tomber par moments, mais ce qui compte, c'est que nous allons vers la perfection. Ce n'est pas le fait de tomber qui définit si nous sommes justes ou pas. C'est ce que nous venons de lire, que cette fois le juste tombe. Mais ce qui définit le juste, c'est que le juste se relève. Il se relève chaque fois. Il continue sa lutte et il demande, bien sûr, s'il a péché, que Dieu pardonne son péché. Ce qui intéresse Dieu, c'est comment nous allons réagir quand nous faisons des erreurs, quand nous tombons. C'est comme ça que nous voyons le caractère de quelqu'un et que nous voyons le caractère juste. Parfois, nous pourrions avoir tendance à minimiser certains péchés dans notre vie par crainte d'échouer. Si nous essayons de les surmonter, on a peur de ne pas les surmonter. Il faut reconnaître des problèmes spirituels, de ne pas les ignorer. Ça exige que nous soyons responsables quand nous faisons face. Parce que ça exige le fait de changer et la repentance et une révision de nos valeurs. il y a une phrase que j'aime beaucoup, prononcée par Sir Winston Churchill avec sa voix unique. C'était pendant la guerre. C'était plus d'un an après la bataille d'Angleterre, qui avait lieu en 1940. Il a prononcé un discours à Harrow School. Il avait été invité. Mais voilà ce qu'il a dit à un moment donné. Voici la leçon. Ne jamais céder. Ne jamais céder. Jamais, 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 jamais. En rien, grand ou petit, important ou insignifiant, ne jamais céder sauf aux convictions d'honneur et de bon sens. Et Sir Winston Churchill était un très grand exemple pour son peuple pendant ce moment très difficile dans l'histoire de la Grande-Bretagne. La Bible dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Car c'est Dieu, et un peu plus loin, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » C'est Dieu qui lui donne la force de persévérer, d'aller de l'avant, et c'est très encourageant. Revenons, si vous voulez bien, à 2 Chroniques, chapitre 34, notre roi juste Josias, verset 10. 2 Chroniques 34, verset 10. On le remit entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage de la maison de l'Éternel, et l'employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers et les maçons, pour les achats de pierres de taille et de bois destinés aux poutres, et à la charpente des bâtiments qu'avaient détruits les rois de Juda. Verset 12. Ces hommes agirent avec probité dans leur travail. Le roi était juste, montrait un bon exemple, et les autres suivaient. Verset 14. Nous suivons une voie. Sa voix, nous avançons, nous progressons, nous continuons à enlever le levain de nos vies au fur et à mesure que nous le voyons. Et c'est ce que Josias a fait. Verset 14. Au moment où l'on sortait l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Hilkijah trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Donc, il découvre quelque chose qu'il n'a pas vu auparavant. Et nous voyons aussi son attitude face à la parole de Dieu. Il recherchait Dieu dans sa vie. Il est venu sur quelque chose, il a trouvé quelque chose qu'il n'avait pas vu avant. Et il s'est remis en question face à cette connaissance. Verset 19. Nous voyons ici son attitude face à la parole de Dieu. Il recherchait Dieu. Verset 19. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Il s'est humilié, verset 22. Il voulait approfondir ce qu'il venait d'apprendre, verset 22. Hilkijah et ceux qui avaient désigné le roi allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shallum, et un peu plus loin. Après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire, elle leur répondit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Verset 27, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites. Verset 27, c'est Dieu toujours qui parle, « Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi. » Dieu souligne le fait qu'il s'est humilié. Parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. Verset 29. Le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem, puis ils montaient à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les Lévites, et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Il a fait alliance avec Dieu, le peuple aussi a fait alliance avec Dieu, et pourtant le roi avait déjà suivi le commandement de Dieu, mais nous voyons ici qu'il est allé plus loin. Il a approfondi son observance, son obéissance. Et après, tout le monde a célébré la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Donc, Josias a fait disparaître le vieux levain avant la Pâque. Qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il s'est humilié. Deuxièmement, il a traité alliance devant l'Éternel. Il était très entier. Et troisièmement, il a fait disparaître tous les objets d'idolâtrie. Le vieux levain. Le vieux levain, c'est nos péchés. Il a fait tout ça en l'honneur de l'Éternel. Il s'est tourné vers Dieu. Il a continué sa transformation. Il a changé des choses qu'il n'avait pas vues auparavant. Il avait toujours un cœur à obéir à Dieu et à suivre avec intégrité la voie de Dieu. Et ça passait par le fait d'enlever le levain, d'enlever ce qui était mauvais, et Josias est devenu une pâte nouvelle. Et nous pouvons contraster ceci avec un autre roi juste, mais qui, à la fin de sa vie, a dévié. Dans 2 Chroniques, chapitre 26, et le verset. Verset 3, 2 Chroniques, chapitre 26, verset 3. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jecolia de Jérusalem. Verset 4. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatsia, son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, ça c'est la clé, Dieu le fit prospérer. Il est devenu très puissant, mais nous lisons dans le verset 16, mais lorsqu'il fut puissant, verset 16, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur se leva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de Dieu pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Et c'était pas sa place. Il n'avait pas à faire ça. Dieu a donné un sacerdoce pour le faire. Et Dieu l'a frappé de la lèpre. Il est devenu orgueilleux. Et c'est ce que nous voyons aussi chez Satan, Lucifer. Lucifer était rempli d'orgueil. Il voulait être aussi puissant et aussi important que Dieu. Et il a refusé de reconnaître sa dépendance sur Dieu et il voulait se glorifier.
Et pour les anciens, l'orgueil est à la racine de tous les péchés.
Dans la vie, nous avons beaucoup d'opportunités. Et même quand nous péchons et que nous reconnaissons nos péchés, nous voyons nos péchés, en nous repentant, nous avons l'opportunité de changer, de nous repentir et de changer. Et parfois, nous pouvons apprendre davantage de nos erreurs que de nos réussites. Nous avons à ce moment-là l'opportunité de lutter contre nos péchés. Et du reste, quand nous voyons la souffrance, la pénalité du péché dans nos propres vies, cela peut nous inciter à être plus zélés pour lutter, pour combattre, pour le vaincre. C'est le but. C'est notre responsabilité, c'est de lutter pour que nous puissions devenir une pâte nouvelle. de se détourner de la réalité de ce que nous avons semé avec les résultats que nous voyons dans nos vies. Et quand nous mangeons les pains sans levain pendant la fête, nous pouvons penser justement à notre lutte et à notre but de devenir sans levain. Il y a des opportunités, mais nous avons toujours le choix. Il y a une différence de l'état d'esprit entre celui qui ne veut pas lutter, qui ne veut pas parce qu'il a peur d'échouer, et celui qui veut aller de l'avant avec l'aide de Dieu, qui se relève et qui se dit « je vais lutter » et qui va demander plus du Saint-Esprit, qui va demander l'aide de Dieu en toute humilité pour pouvoir aller de l'avant. Christ est mort pour que nous ne mourions pas. Mais la fête est aussi un processus qui continue. Les enfants, quand nous voyons l'histoire des enfants d'Israël, c'est une histoire qui aurait pu être positive. Ils auraient pu laisser l'Égypte derrière, mais ils ont porté l'Égypte avec eux. L'Égypte était un symbole du péché. Ils ont emporté l'Égypte avec eux, c'est ce que nous voyons dans Psaume 78. Psaume 78, nous voyons ici la réalité de leur voyage. C'est vrai qu'ils avaient des défis, mais il aurait fallu qu'ils relèvent les défis. Nous aussi, nous avons des défis dans nos vies et nous pouvons mal réagir face à ces défis. Psaume 78, et le verset 17. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, contre Dieu, à se revolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentaient Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leur désir. Verset 19. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Verset 32, il manquait de foi. Verset 32, malgré tout cela, ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ces prodiges. Et pourtant, ils avaient vu à maintes reprises le prodige de Dieu en Égypte et après la sortie d'Égypte. Mais ils ne crurent point en ces prodiges. Il faut que nous voulions avec tout notre cœur arriver, être dans le royaume. Dans Romains 6, c'est marqué, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Choisissons d'entrer dans le royaume. Paul a dit à Timothée, saisis la vie éternelle. Comment? En nous débarrassant du péché, demandez l'aide de Dieu. Si nous lui faisons confiance, il va nous aider. Nous vaincrons le péché. Nous serons alors une patte nouvelle, une nouvelle création.